Merci Seigneur, gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Eh bien, vous savez, on a prêché sur la prière quand même quelques semaines et même sur le parler en langue puis tout ça. Puis quand je me préparais avant hier puis tout ça, je me préparais. Vraiment, je voulais m'en aller dans la prière puis c'était non, pas là, pas là. Tu fais pas ça, ok. Alors je dis Seigneur. Comment tu veux que je m'en aille mercredi soir? Alors, le Seigneur, il dit, tu continues ce que tu avais commencé avant d'enseigner sur la prière, lorsqu'on avait dit, ça prend plus que la foi pour réussir, autrement dit, pour être utilisé de Dieu. Ça prend plus que la foi. Et juste pour faire une révision rapide, on avait parlé de Noé. Puis vraiment, quand on dit « ça prend plus que la foi », ce qu'on pourrait dire, c'est que ça prend toute une personnalité puis un caractère divin. Vraiment, en Dieu, ça prend une personnalité puis un caractère divin pour obtenir les choses qu'on veut obtenir. Puis on avait parlé de Noé, puis on avait dit que Noé, premièrement, Dieu... On va aller en premier à 1 Samuel 16, je veux juste que... Il va peut-être avoir plusieurs écritures ce soir, mais on va vous demander d'être patient. Amen. En 1 Samuel 16, vous savez, c'était Samuel qui allait oindre pour futur roi un des fils d'Isaïe. Et puis, tous ses fils passaient devant lui, devant Samuel, puis il disait, le Seigneur, il disait, non, là, tu regardes à son apparence, je l'ai rejeté, c'est pas lui. Alors, on va lire à partir du verset 6, ça dit, « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. Alors, vraiment, c'est vraiment important de savoir que Dieu, il regarde, puis Dieu voit clair. Puis quand Dieu nous regarde, il regarde le cœur. Il regarde pas à l'apparence, il regarde pas à qu'est-ce qu'on a l'air de projeter. Il regarde à notre cœur, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et je disais que Noé a été choisi, ça prenait plus que juste la foi. Ça prenait que c'était un homme courageux, comme je veux dire les trois qualités qu'on avait décrites de cet homme-là. C'est une revision, comme je dis. Être courageux, c'est une fermeté en face du danger, une fermeté en face de la souffrance, puis une fermeté en face du revers ou du rejet, comme on pourrait dire. Alors, vraiment, il fallait que Noé soit ferme en face de tout le monde qui pouvait le rejeter ou la souffrance qu'il pouvait avoir de se faire mettre de côté, faire rire de lui ou quoi que ce soit, ou l'endurance qu'il devait avoir et devant tout. Alors, il était courageux. Dieu, il savait que ça y prenait quelqu'un de courageux. Si le gars, il perd courage, puis il se décourage, perdre courage, c'est se décourager à toutes les 5 minutes, il va avoir de la misère à faire bâtir l'arche. Amen. Ça prend plus que la foi. On a vu aussi qu'il fallait qu'il soit travaillant. Ça l'a pris 100 ans à bâtir une arche. Ça prend quelqu'un qui est travaillant. Si quelqu'un est paresseux, au bout de 500 ans, il n'aura pas fini son arche. Amen. Et puis, c'est pas le travail qui tue non plus, parce qu'il est mort à 950 ans. Fait que c'est pas le travail qui tue non plus. Alors, on a vu que c'est important. Dieu, quand il regardait à Noé, il voyait un homme qui était travaillant. Il dit, ça, je peux utiliser ça. Amen, s'il est travaillant. J'ai marqué, t'as ceux qui travaillent, puis t'as ceux qui trouvent toujours des excuses. Amen, pour pas être là. Les excuses sont bonnes pour ici sur la terre, mais il n'y en aura pas au ciel. Fait que s'il y en a qui ont passé leur vie à vivre sur les excuses, je peux pas faire ça parce que, puis je peux pas faire ça parce que, bien, c'est comme je dis, ça prend plus que la foi. Amen. Dieu ne confiera pas des choses à quelqu'un qui est paresseux. On va juste aller à Proverbe 20. Proverbe 20, puis je vais lire le verset 4. Ça dit, « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. » À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Tu sais, à cause du froid, il ne labourera pas. Ça, c'est un paresseux. À cause qu'il pleut, il ne sortira pas. À cause qu'il n'y a pas d'argent, il n'ira pas là. Un paresseux, il trouve toujours des excuses. Mais quand arrive la moisson, il n'y a rien. Autrement dit, quand ça arrive le temps de voir est-ce qu'il a accompli les choses que j'ai demandées, il n'y aura rien parce qu'un paresseux trouve des excuses. On va aller à Ecclésiaste 10. Ça, c'est tout de suite après Proverbe. Ecclésiaste 10, et puis je vais lire le verset 18. La parole de Dieu dit, « Quand les mains sont paresseuses, la charpente a sa faise. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. » Ça veut dire que c'est pas fameux le travail qui est fait quand une personne est lâche ou est paresseuse. Ça ne produira pas le bon fruit qu'on veut avoir. Et on avait vu ça la dernière fois dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25. Et puis, alléluia. À propos des gens à qui le maître avait remis des talents aux gens. Puis il y en avait un qui n'avait pas utilisé son talent, il a été paresseux, autrement dit. Et si je commence à lire dans Matthieu 25, verset 27, ça dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Par mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et qu'est-ce que je voulais qu'on voit ici, c'est qu'un paresseux, aux yeux de Dieu, c'est un serviteur inutile. Fait que s'il est inutile, c'est officiel qu'il ne l'utilisera pas. Fait que vraiment, ça veut dire quoi? Des fois, les gens disent, moi, je veux que le Seigneur m'utilise. Travaille. Montre que tu n'as pas peur de travailler. Montre que tu es courageux. Montre que tu n'as pas peur de faire les choses. Tu as des grandes chances d'être utilisé. Amen. Et aussi, on a vu qu'il était obéissant. Puis, une chance qu'il ait été obéissant à faire exactement, on parle toujours de Noé, de bâtir l'arche de la façon, de la grandeur, la hauteur, la largeur, fenêtre ici, mettre du bitume en dedans, en dehors, faire ci, faire ça, faire des chambres en dedans. Une chance qu'il ait été obéissant à faire exactement ce que Dieu lui demandait. Parce que Dieu savait la résistance que l'arche devait avoir pendant 40 jours et 40 nuits pendant qu'il pleuvrait. Amen. Mais s'il n'aurait pas été obéissant, puis il aurait dit, bien en tout cas, le Seigneur va être content pareil, j'ai fait de quoi, moi, comparer aux autres? Non, on ne se compare pas aux autres. La Bible a dit, ne vous comparez pas, ce n'est pas être intelligent. Quelqu'un qui se compare, ce n'est pas être intelligent. Être intelligent, c'est quand tu obéis à Dieu, point final. S'il aurait arrivé et il aurait dit, bien là, c'est pas mal d'ouvrage, ça fait quand même 90 ans que je travaille là-dessus, quand même que je ne ferai pas le top comme il me l'a demandé, bien, on n'existerait pas aujourd'hui parce qu'il aurait été détruit avec le reste. Amen. Alors, Dieu, il regarde plus que juste la foi d'une personne. Amen. Pourquoi je dis ça? La raison que je dis cela, puis je l'ai dit au début quand j'ai commencé à parler de cela, c'est que la foi, vous l'avez, sinon vous ne seriez pas ici ce soir. Okay? La foi, c'est croire dans la parole de Dieu. Vous y croyez dans la parole de Dieu. Peut-être que des fois, vous êtes embrouillé par vos sens avec les choses qui se passent, mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu, dans votre cœur, vous n'y croyez pas. Donc, vous êtes des gens de foi. Peut-être qu'il y en a qui ont des grandes fois, peut-être que les autres, peut-être qu'il y en a d'autres que leur foi, ils ne l'appliquent pas autant, mais tout le monde a la foi. Mais ça prend plus que la foi. Il faut être obéissant, il faut être courageux, il faut être travaillant pour être utilisé de Dieu pour les choses qu'il nous demande de faire. Ce soir, on va aller à Ésaïe 1. Ésaïe 1. Une qualité au moins, qu'on a, pasteur Réal et moi, c'est travaillant. Ça, le travail, on n'a pas peur de ça. Des fois, mon mari est obligé de m'asseoir. Parce que j'ai toujours 56 projets. Pendant qu'Annie et Brian étaient partis, j'en avais des projets. Ils vont arriver, ils vont avoir des surprises dans leur maison. On a recouvert leurs chaises de cuisine, on a fait ci, on a fait ça. Là, mon mari, il dit, on fait ça à soir? J'ai dit, ben oui, on a tous mis de faire ça à soir, demain, on n'aura pas le temps. Il dit, c'est juste qu'il est rendu 11h30. Oh, OK, on va arrêter. Mais travaillant. Mais au moins, on a cette qualité-là. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, c'est pour ça que Dieu nous utilise aussi pour tout le travail qu'il veut faire ici. Amen. Ça prend plus que la foi. Dans Ésaïe 1, si je lis le verset 19, ça dit, « Si vous avez de la bonne volonté. » Il y a souvent des phrases qui commencent par « si » dans la parole de Dieu. Hein? « Si tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ta force. » Ben oui, c'est pas tout le monde qui croit. La Bible a dit ici, « Si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Amen. Alors vraiment, c'est très important de développer une bonne volonté, c'est-à-dire un bon vouloir, vouloir faire, être content de le faire. Quand tu as une bonne volonté, c'est que tu es content de le faire. C'est pas là, « OK, bon, je vais en faire ma chambre, quatre langues, la porte à vol. » La passe quasiment bord en bord, puis reviens, puis là, tu fais ta chambre. C'est pas trop une bonne volonté, ça. Amen. Tu l'as fait, mais c'est très à reculons, OK? Être content de le faire, avoir de la bonne volonté, puis être docile, ça veut dire qui obéit volontairement. Bon, oui, c'est correct, va le faire. OK, c'est ce que tu veux, OK, va le faire. C'est être, puis vraiment, quand on prend les deux, c'est vraiment être soumis. C'est comme ça que tu le veux, Seigneur? C'est ça que tu veux que je fasse, que je pardonne? Je vais pardonner. Ce que tu veux que je fasse, Seigneur, être docile, être content de le faire, avoir du bon vouloir. On appelle ça de la soumission. Et la parole de Dieu dit que quand une personne est comme ça, elle va manger les meilleures productions du pays. Fait que c'est payant pour nous d'être comme ça. Amen. Puis vous allez voir comment on va avancer dans ce sujet-là ce soir, que ça promet bien des choses. Amen. Combien de vous savez que Dieu a un rang plus élevé que nous? Amen. Il est le créateur de l'univers. Amen. On existe parce qu'il nous a mis là, dans la terre qu'il tient dans ses mains. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il est plus important que nous. C'est important qu'on lui soit soumis. On va aller à Jacques 4. Et puis, je vais lire le verset 6 et 7. Ça dit, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, puis il fuira loin de vous. » Amen. La Bible nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. » La Bible, on vient de lire dans Ésaïe que quand on est docile, on veut, on est soumis, c'est correct, Seigneur. OK, c'est ça que tu veux, c'est ça que je vais faire. Soumettez-vous donc à Dieu, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Puis en plus, le diable va fuir loin de nous. On va aller à Romains 13, parce que il fallait que je prenne beaucoup d'écriture. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça avoir quelques exemples. Mais ça a bien l'air que le Seigneur me donnait des écritures seulement. On va aller au verset 1 de Romains 13, ça dit « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. » Dieu marche par un système. Hein? Il met des gens en autorité, puis il place son monde, amen. Là où il y a de l'autorité bien placée, il y a de l'ordre. Combien de vous avez aimé le pique-nique puis qu'il y avait de l'ordre? Amen. Tout le monde était bien placé, chacun était à son poste, il était soumis puis obéissait à l'autorité. Tout s'est déroulé très bien. Il n'y a pas eu d'accrochage, je ne crois pas en tout cas. S'il y en a eu, c'est en arrière d'un arbre puis je ne l'ai pas vu. Là. Amen. J'essayais d'avoir des yeux tout le tour de la tête puis faire le tour un peu. Là. Il y en a qui ont voulu me serrer dans les bras, ils étaient tout trempés. Mais j'ai vu avant leurs intentions. Wow! Mais c'est Dieu qui a institué les autorités. Puis la personne, au verset 1, ça dit que toute personne soit soumise aux autorités. Amen. Et au verset 2, ça dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y en a des gens que aussitôt qu'il y a une personne en autorité, c'est waouh, c'est la résistance totale. Ben là, on est-tu vraiment obligé de faire ça de même, là? Franchement, on va voir qu'il y en a qui ont chialé dans la Bible contre les autorités, puis ça n'a pas été rose, les affaires. Amen. La parole de Dieu dit, ils attireront une condamnation sur eux-mêmes. Il dit, ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. La parole de Dieu dit que c'est une nécessité. C'est bon pour nous d'être soumis à des autorités. Amen. Les autorités qui nous sont placées. Parce que les autorités qui sont placées, ils ont été instituées par Dieu. Amen. Même dans l'Église, Dieu il a dit qu'il a donné des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des prophètes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est des autorités qu'il a placées. Mais la parole de Dieu dit, résiste pas aux autorités. Vous attirez une condamnation contre vous-même. Est-ce qu'il y a des rangs dans l'armée terrestre? Oui. Mon mari, une fois, il était arrivé à Vancouver, puis il pleuvait, et il arrivait, je pense que tu étais monté en train, c'était sûr, tu étais un jeune, oui. Et puis, il courait pour aller se présenter au quartier général, ou je ne sais pas quoi, là. Puis là, il y en a un qui est sorti avec des cheveux blancs, puis il y avait des patentes ici, puis ici, dans ce temps-là, il faut que tu fasses attention, là. T'sais. Puis mon mari, il mouillait, fait que mon mari a couru pour monter les marches. Oh boy, il a oublié de faire ça de main. Yes, sir. No, sir. Il y a affaire à rester sous le puits, puis, oui, quoi. Il y a de l'autorité qui doit être. Mais vous savez, quand ils vont en guerre, puis quand ils vont au combat, ça marche aussi. Une troupe s'en va par là, puis l'autre troupe est là, puis l'autre troupe va arriver, puis ils placent leurs affaires. Amen. Mais c'est d'apprendre à respecter l'autorité. Amen. Bien, en Dieu, dans l'armée de Dieu, il y a de l'autorité aussi. Il y a une chose qu'il faut comprendre avec les autorités. On va juste aller à 1 Corinthiens 12 avant, parce que je l'avais écrit, puis après ça, j'expliquerai quelque chose. 1 Corinthiens 12, et puis je vais lire à partir du verset 27. Ça dit, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Mais Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Après ça, troisièmement, les enseignants, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, puis de parler diverses langues. Ils disent, sont-ils tous des apôtres? Sont-ils tous des prophètes? Non. Amen. Mais rechercher le meilleur, c'est de marcher en amour. Amen. Mais voyez-vous, il y a de l'ordre, il y a des autorités. Il y a premièrement, c'est ça, puis deuxièmement, c'est ça. Ça, c'est les choses que Dieu a établies. Mais il y a un homme, il y a trois garçons qui sont dans l'armée. Et le plus jeune, c'est un simple soldat. Le deuxième, c'est un caporal. Puis le troisième, c'est un sergent. C'est juste pour comprendre les autorités. Quand ils sont au travail, c'est pas des frères. C'est des militaires, puis le simple soldat s'y rend compte, si son frère, le caporal, il donne un ordre, c'est « yes, sir ». Puis s'ils ont leurs autres frères, sergents, ils les appellent tous les deux, puis ils disent « toi, tu vas là, toi, tu vas là, yes, sir ». Quand ils sont au travail, dans l'armée, ils se respectent selon les rangs. Mais quand ils arrivent à la maison, dans la famille, ils mangent toutes la même affaire, à Noël, ils ont tous les mêmes cadeaux. Le père, il ne donne pas un plus gros cadeau à celui qui est sergent, puis un moins gros à celui qui est simplement simple soldat. Aussitôt qu'ils arrivent dans la famille, là, ils sont rendus des frères. Amen. Puis ils ont toutes les mêmes récompenses, puis ils ont le droit à tous les mêmes privilèges de la maison. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu il a établi des autorités. Dieu il a placé. Puis toute autorité a été placée par Dieu. Puis tout ce que Dieu nous demande, c'est soyez soumis. Mais quand on arrive en tant qu'enfant de Dieu, devant Dieu, on a toutes les mêmes promesses, on a le droit à toutes les mêmes guérisons, toute la même prospérité, toute la même paix, tout le même salut, toute la même protection. On a le droit à toutes les mêmes choses. Mais quand on est au travail pour Dieu, puis que là, on est en train de faire le travail pour Dieu, on respecte les autorités. Amen. Gloire à Dieu. On va manger avec ça les meilleures productions du pays. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Vous savez que c'est... On va aller à 2 Timothée 2. Vous savez que c'est comme ça que l'apôtre Paul avait parlé à Timothée. 2 Timothée 2. Et puis, je vais lire le verset 3. Si je peux trouver mon verset 3. L'apôtre Paul parle à Timothée, il dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Amen. « Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Mais c'est juste pour vous montrer que souvent dans la parole de Dieu, on va entendre parler de l'armée de Dieu, on va entendre parler de soldats, de bons soldats, de combattre le bon combat, de prendre l'armure de Dieu. Alors, il y a beaucoup de termes dans la parole de Dieu qui fait, nous démontre qu'on fait partie de l'armée de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est toujours payant être soumis, être docile. On va aller voir un exemple dans la Bible à propos des Israélites, les fameux Israélites, amen, le peuple de Dieu. On va aller à Nombre 12. Nombre 12. Alléluia. Et vous savez, Marie, puis Aaron, puis Moïse étaient frères et sœurs. Mais c'est Moïse qui est en charge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dieu l'avait placé en autorité. Quand ils sont à la maison, c'est des frères et des sœurs. Mais quand ils étaient faisant le travail de Dieu, à ce moment-là, Moïse était en autorité. Alors, on va aller au verset 1 dans Nombre 12. Ça dit, Moïse et Aaron parlèrent contre Moïse. Marie et Aaron. Pas Moïse. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Autrement dit, ils commençaient à plus ne vouloir respecter la parole qui sortait au travers de Moïse. Autrement dit, ils commençaient à vouloir dire, « Il n'y a pas que lui que Dieu parle. Il nous parle, nous autres aussi. » Qui se prend plus fin que les autres? Alors, au verset 3, ça dit, l'Éternel l'entendit. Combien de vous savez que Dieu n'entend pas juste vos prières? Okay. Il n'entend pas juste nos prières. La parole de Dieu dit qu'il entend tout ce qu'on dit. Amen. Alors, l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Mais soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Ils y allèrent, tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre. Là, il n'est pas peur, là. Oh non, j'ai dit ça du pasteur. Non, non, vous n'aurez pas la lèpre, là, faites-vous-en pas, là. Je ne suis pas Moïse, là. Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu n'est pas sourd, il entend tout. Amen. Puis tout ce que Dieu demande, c'est qu'il soit soumis. Puis qu'est-ce qui arrive ici, c'est qu'il était peut-être tanné de se soumettre. Puis là, il se regardait trop comme frère et sœur, puis il disait, ben là, Dieu peut nous utiliser, nous autres aussi. Et ça ne l'a pas plu à Dieu. Dieu le prend personnel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va aller maintenant à 13, numéro, le chapitre 13, puis le verset 2. Si je peux voir mes petits chiffres, là. Bon. Envoie des hommes, là, Dieu parle à Moïse, puis il dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Il y a une chose que je voulais qu'on voit ici, c'est que Dieu, lui, savait d'avance qu'il donnerait ce pays-là aux enfants d'Israël. Alors, il les a envoyés, les 12. Mais il y en a 10 qui sont revenus et puis ils n'ont pas cru qu'ils étaient capables d'obtenir ce que Dieu voulait leur donner. Vous savez, ils ont regardé aux circonstances, mais en réalité, ils n'étaient pas capables de croire à ce que Dieu voulait leur donner. Dieu lui a dit, regarde, je leur donne ça, le pays que je leur donne. Il fallait monter puis il fallait explorer le pays. Il y en a 10 qui sont venus, puis ils n'étaient pas capables de croire que Dieu était capable de lui donner ça. C'est bien trop. Avec Dieu, là, c'est infiniment au-delà. Okay? Il faut s'habituer à voir dans la parole de Dieu comment Dieu fait toujours les choses infiniment au-delà. Alors, je vais lire le verset 17. Ça dit, « Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici vers le midi et vous trouverez sur la montagne. Et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais, s'il y a des villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. » Imaginez-vous, ça a pris 2 hommes avec une perche pour amener la grappe, puis c'était juste les premiers raisins. C'était juste la première récolte. Amen. Alors, Moïse y les envoya. Au chapitre 14, et on sait très bien que lorsqu'ils sont allés, comme j'ai dit tantôt, ils sont revenus, puis il y en a 10 qui ont dit, ça n'a pas d'allure, t'as pas vu le pays, on a de l'air des sauterelles, c'est des géants, on réussira jamais. Pourtant, Dieu ils avait dit, je leur donne ce pays-là. Ils ont juste à croire, puis je vais leur donner ce pays-là. Alors, ils sont revenus, puis là, au chapitre 14, ils se sont soulevés. Au verset 1, ça dit, « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Aaron et Moïse, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » Je vais vous dire la situation. Moïse a envoyé les 12. Les 12 reviennent. Josué et Caleb, ils ont dit, « Dieu nous le donne. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? On va monter puis on va l'avoir. » Les 10 autres, ils ont découragé tout le monde. Puis ils ont dit, « On ne peut pas y aller. Franchement, on a de l'air de quoi à côté d'eux autres? Des sauterelles. C'est des géants. On ne réussira jamais. Ça ne marchera jamais. » Puis là, ils ont marché par la vue et non pas par la foi. Puis là, ils ont vu toute la négativité. Puis après ça, ils se retournent. Puis là, c'est la faute de Dieu. C'est la faute de... ils blâment Dieu en blâmant Aaron puis Moïse, parce que c'est Aaron puis Moïse qu'ils ont envoyés. Fait que là, ils disent, le Seigneur a été... Dieu aurait tous bien nous laisser mourir en Égypte ou mourir dans le désert. On le sait, là, l'affaire. C'est parce qu'il veut nous faire mourir là, puis il veut faire mourir nos femmes puis nos enfants. Mais sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va changer de leader. Quand le monde, ça ne marche pas dans leur vie, là, ils veulent changer de pasteur. Pasteur, hein? OK. Il veut changer de pasteur. Oui, elle nous dit ça, puis elle pense là, qu'elle va tout construire sur le terrain. C'est qui tu penses qui va payer pour ça? C'est nous autres encore? Si Dieu se sert de vous autres, vous devriez être contents. Ça veut dire qu'il va passer des millions au travers de vous autres. Hein? Gloire à Dieu. Hey, alléluia! Je vais être la première que Dieu utilise. Amen. Amen. Si Dieu passe par vous autres pour construire tout ce qu'on veut construire, hey boy, vous allez être riche tout à l'heure. Hey boy! N'oubliez pas que vous gardez le 90, puis rien que le 10 qui s'en vient, puis on construirait tout ce qu'il veut qu'on construise. Alléluia! Amen! Mais, c'est ça, il y en a qui, aussitôt que ça va mal, c'est ils se rebellent. Ils ne sont pas soumis. Alors, ils changent de pasteur. Voyez-vous, j'avais écrit ça dans un de mes enseignements. Dieu, c'est lui qui plante chaque personne dans l'Église. Avez-vous déjà travaillé dans la terre, puis planté une plante? Après ça, vous la déracinez, puis vous la plantez ailleurs. Puis après ça, vous la déracinez, puis vous la plantez ailleurs. Puis vous la déracinez, la plantez ailleurs. Qu'est-ce qui va arriver avec la plante? La plante, elle va mourir. Hein? La plante, elle va mourir parce qu'elle est trop déracinée. Quand tu es enraciné, quand Dieu te plante en quelque part, reste là. OK, tu es bien empoté, là. OK. Nous autres, on va mettre de l'engrais. On met de l'engrais, puis tu vas pousser, OK? Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, ils se sont tous rebellés. Amen. Je vais lire jusqu'au verset 11. Alors là, ils veulent changer de pasteur. Ils ont dit, hey, Moïse, il faut ôter ça de là, on va se nommer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne nous enverra pas là. Ils disent, c'est bien facile à voir qu'on va mourir. Mais non, Dieu, il a dit qu'il lui donnerait. Alors, verset 5, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël et parmi ceux qui avaient exploré le pays. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles. Soyez soumis. Ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Voyez-vous, il y en a qui vivent juste sous l'ombrage de Dieu, puis viennent à bout d'être bénis. Merci quand le Seigneur est avec nous, parce qu'au moins, il y en a qui ont de l'ombrage un peu à cause de nous autres. Mais là, il dit, ils n'auront pas d'ombrage pantoute. On va saisir le pays parce que Dieu est avec nous. Amen. Alors, ils vont nous servir de pâturage. Alors, au verset 10, ça dit, toute l'assemblée parlait de les lapider. Plus qu'ils parlaient de même, le monde dit, on va les lapider, ça n'a pas de bon sens. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui? Dieu le prend personnel. C'est toute l'histoire que je vous ai racontée, c'est pour vous montrer que le monde se choque après Moïse, puis choque après Aaron, parce que c'est de là qu'ils reçoivent les ordres pour aller faire. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu en arrière qui a parlé à ces hommes pour qu'eux autres aillent le faire. Puis là, quand ils ne le font pas, puis ils se rebellent, Dieu le prend personnel, puis il dit, jusqu'à quand ce monde-là vont se rebeller contre moi? Il le prend personnel parce que c'est lui qui a donné l'ordre. Amen. C'est lui qui a dit, vous allez gagner. Amen. Alors, vous voyez, je veux vous montrer aussi, là on a regardé les enfants, mais je veux que vous montrer que Moïse, parce que là, vous allez dire, c'est quoi tu essaies de nous dire à ça? Parce que des fois, le monde cherche. Elle essaie-tu de nous dire quelque chose? Peut-être qu'on n'est pas assez soumis à elle. Non, c'est pas ça, je parle pas de ça. À elle, pantoute. Je parle de soumission, point. Puis je vais vous montrer que Moïse n'a pas été soumis à un moment donné dans sa vie, lui aussi. Ça lui a coûté cher. On va aller à Nombre 20. Ça prend tout cet enseignement-là pour arriver à la fin que je veux arriver tantôt. Nombre 20, et puis Il manque encore d'eau. Puis là, les Israélites pleurent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Bon. Alors, Moïse est allé devant l'Éternel, puis l'Éternel lui a dit d'aller parler au rocher. Alors, on va aller au verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez-moi, rebelles! » Ici, tout de suite, un problème en partant. Quand un pasteur commence à appeler sa gang, « ma gang de rebelles », c'est parce que le pasteur est fatigué. OK? Moïse, ça fait longtemps qu'il défend cette gang-là. Là. Ça fait longtemps qu'il va devant Dieu puis il prie pour eux. Puis ça fait longtemps qu'il va pleurer devant Dieu puis il dit pardonne-leur puis tout ça. Mais là, là, il y en a jusque-là. Fait que là, il lui parle et il dit écoutez, rebelle. Puis quand tu commences à en arriver là, toi-même, tu fais des erreurs. Puis c'est ça qui arrive à M. Moïse. Écoutez-moi, rebelle, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Oh, c'est pas ça que Dieu lui a demandé. Dieu lui a dit, parle au rocher devant le monde. Dieu voulait que Moïse, maintenant, prenne son autorité et dise, « Rocher, sors de l'eau! » Là, le monde y aurait dit, « Quand il parle, la chose elle arrive. » Il aurait peut-être eu peur, après ça, de dire plein de choses. Comprenez-vous? Mais Moïse, depuis qu'il est allé du désert devant Pharaon, il a toujours été avec sa verge, son bâton, pour faire les miracles qu'il devait faire. Alors, puis Moïse leva la main, frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, parce que Dieu était pour en donner pareil de l'eau. Dieu l'a fait pareil. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que vous n'avez pas cru en moi pour montrer que quand je vous parle, puis que vous obéissez, la chose elle arrive. Parce que vous n'avez pas cru en moi, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. Wow! Est-ce que Dieu est choqué après Moïse? Non. Dieu, là, c'est bien important, c'est mon point important de la soirée. Dieu, il n'est pas choqué après. Quand j'ai dit complètement au début, ça prend plus que la foi pour faire les choses de Dieu, pour se rendre au bout, pour réussir, pour obtenir. Ça prend aussi les autres attributs de ta personnalité divine. Puis voyez-vous, Dieu voyait que Moïse, il avait toujours gardé sa foi dans une chose, c'était le bâton avec lequel il servait. Puis Dieu savait que pour rentrer dans la terre promise, il savait ce qu'il devait faire face Moïse tantôt. Puis Dieu s'est dit, si lui n'est pas capable de parler à une roche, comment il va faire pour faire crier le monde alentour d'une muraille de pierre? Fait qu'il dit, il ne sera pas capable. C'est pas que Dieu l'a puni puis il a dit, « T'as pas voulu? Hey, » c'est la première fois qu'il se trompe, le gars, là. Tu veux dire. Dieu, il n'a pas dit, « T'as pas voulu? » That's it. Ta punition, là, c'est pas toi qui vas faire. Ben non, Dieu n'est pas de même. Il faut que vous élargissiez votre intelligence pour comprendre que Dieu est amour, Dieu est intelligent, Dieu est la sagesse, l'intelligence, c'est de lui. Dieu sait les choses qu'on va faire face demain, puis après-demain, puis après-demain. Puis Dieu savait qu'il a dit, maintenant, Moïse, tu vas faire autre chose. Depuis le début que tu te sers de ta verge pour aller devant Pharaon, puis tu l'as lancé à terre, puis elle est devenue un serpent. Tout le monde a vu Moïse, là, bon. Et puis, après ça, tu prenais ton bâton, puis tu la mettais dans l'eau, puis l'eau se séparait. Mais cette fois-ci, je veux que tu arrêtes de mettre ta confiance juste dans le bâton que tu as, puis que tu mettes ta confiance quand je dis de faire une chose d'une façon, fais-le. Il est rendu là, OK? Alors Dieu dit, tu vas parler au rocher devant tout le monde. Puis tu vas montrer au monde que quand tu prends ma parole puis tu la fais, ça s'accomplit. Puis Moïse n'a pas parlé au rocher. Parce que ça y est arrivé une fois auparavant de fesser sur le rocher avec son bâton puis ça avait marché. Fait qu'il l'a refait de la même manière. Vous savez, des fois, on s'en va comme ça dans la vie. Bien, moi, je suis habituée comme ça, puis quand j'ai besoin de quelque chose, bien, je sème, puis je récolte, puis point final, puis c'est comme ça. Peut-être que Dieu veut que tu fasses une autre affaire une autre fois. Bien, moi, en tout cas, quand ça arrive, là, je me mets en jeûne, puis je prie, puis bon, c'est comme ça que je fais. Oui, c'est peut-être bon, mais peut-être que Dieu veut que tu fasses autre chose cette fois-ci. Dieu, on ne le met pas dans une boîte. Voyez-vous, c'est ça qui a développé les religions dans le monde. C'est que le monde mettait Dieu dans une boîte. C'est comme ça, puis les neuvaines, ça se fait comme ça, puis c'est le temps de l'année, puis c'est le mois de Marie, puis c'est le mois de Joseph, puis c'est comme ça, puis ils mettent Dieu dans une boîte, puis c'est comme ça. Non, on ne met pas Dieu dans une boîte. Dieu, il peut te demander de bénir un voisin, Dieu peut te demander de jeûner une semaine, Dieu peut te demander plein de choses, il veut juste que tu apprennes à croire en sa parole, et ça le sanctifie devant les gens. Amen. Ça l'amène les gens à croire parce que les choses se passent dans ta vie. Alors Moïse n'a pas été soumis. Puis à cause de ça, Dieu savait qu'il ne peut pas lui confier le reste parce que Dieu dit, je vois maintenant qu'il pense que je peux agir juste d'une façon. Il pense que je lui ai dit, parce qu'il lui avait dit ça au départ, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, mon bâton, ma verge. Mais il dit, va avec ça, puis avec la force de l'Éternel. Mais c'est comme s'il pensait que Dieu travaillait juste d'une manière. Puis Dieu voulait lui montrer qu'il était Dieu tout puissant, puis il peut travailler de toutes sortes de manières. Mais il voyait que Moïse n'était plus prêt pour ça. Il ne serait pas capable de prendre toute la multitude maintenant, puis de lui faire faire complètement autre chose sans son bâton. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis des fois, ça arrive qu'un jeune zélé comme Josué, qui a pris la relève, vous lirez la parole, c'est un bon livre. Vous lirez le livre de Josué, puis Dieu lui disait, fortifie-toi là, puis prends courage. Puis que ce livre de la loi s'éloigne point de toi là, puis médite-le jour et nuit, parce que tu vas pouvoir agir selon tout ce qui est écrit, puis selon tout ce que je te dis. Fait que là, Dieu, il dit, tu vas les faire tourner 7 fois l'entour de la ville que je vais lui donner, la fameuse ville que les 12 avaient explorée. Puis il dit, vous allez garder le silence, vous allez juste tourner à l'entour. Puis certains qui faisaient rire d'eux autres, « Gars, les Hébreux qui sont après tourner à l'entour de la muraille. » Dites pas un mot. Parce qu'ils savaient que s'ils parleraient, ils parleraient négatif à nous. Alors, dites pas un mot. Mais la dernière fois qu'ils ont fait le tour, il dit, là, vous allez lâcher des whacks. Vous allez crier. Amen. Mais si Moïse n'avait pas été capable de parler au rocher, il n'aurait sûrement pas été capable d'emmener un groupe comme ça à crier pour qu'un mur tombe à terre. Fait que c'est pas que Dieu le punissait. C'est que Dieu regarde à plus que la foi. Il regarde si on se force à obéir. Ça ne veut pas dire que si on fait une erreur, là, that's it. Hey, on n'a pas été utilisé comme Moïse a été utilisé, là. Comprenons-nous bien. Combien de vous, vous êtes promenés avec un bâton, vous avez séparé la rivière ici, là? Le lac Manfremagog, OK, là? OK, là? Puis vous l'avez jeté à la tête, puis ça a devenu un serpent, là. Tu sais, là, je veux dire, là, puis que vous avez frappé des rochers, puis l'eau a coulé, puis que, tu sais, là, bon, fait que, on se calme. OK. On apprend à obéir. On apprend à obéir. Amen. Mais vous voyez, Moïse, lui, il était un homme qui avait été grandement utilisé de Dieu. Mais Dieu savait, il était rendu à 80. Dieu savait que 80 avancé, là, parce qu'il y avait 80 quand il a commencé à les faire sortir. Puis il a erré pendant 80, pendant 40 ans, mais non. Dieu savait que c'est comme tu as mis ta confiance juste dans le bâton, là, puis tu as fait merveilleusement jusqu'ici. Mais ça va en prendre un autre pour prendre la relève. C'est juste ça que Dieu voulait lui dire. Dieu ne nous punit pas. Amen. Si Dieu voudrait nous punir, ça ne serait pas beau tantôt, parce qu'on mériterait quelque chose de rare pendant bien des affaires. Amen. Non, Dieu ne punit pas. Alors vraiment, Moïse devait être soumis aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est chacun de nous. Chacun de nous, on est tous soumis. Amen. Gloire à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est vraiment un abandon total de notre raisonnement. Se soumettre à Dieu, là, c'est un abandon total de notre raisonnement. C'est comme si, Seigneur, tu le dis, je le fais. Et puis, t'es mieux, même, je ne parle pas, là, lui, Moïse, n'a pas obéi. Parce que sa confiance était rendue dans le bâton, là. Vous comprenez? Mais je ne parle pas que quand Dieu nous parle, puis si on manque notre coup, là, c'est pas la fin du monde, là. Dieu, il voit notre cœur, puis il voit qu'on veut essayer de bien faire. Amen. D'obéir à chaque fois, puis chaque fois, c'est différent. Vous comprenez? Parce que là, je ne veux pas que le monde m'appelle demain, là, puis vous avez toute la condamnation. Mais non, Moïse mettait sa foi dans le bâton, OK? Seulement. Tandis que vous, quand Dieu vous parle, vous essayez d'obéir de différentes façons. Fait que même si vous manquez votre coup, Dieu voit votre cœur, OK? Gloire à Dieu. Mais Moïse a quand même un bon cœur. On va aller à Nombre 27. Alors Dieu lui a dit, tu ne feras pas rentrer les gens dans la terre promise. Puis dans Nombre 27, au verset 12, l'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel et dit, « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme, qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. » afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit point comme des brebis qui n'ont point de berger. Voyez-vous comment Moïse était un homme, dans le fond, soumis? C'est juste qu'il avait mis toute son espérance plus dans le bâton qu'en Dieu. C'est un homme soumis parce qu'il aurait pu arriver puis dire, après tout ce que j'ai fait, après tout ce qui s'est passé, comment que j'ai passé 40 ans à errer avec eux autres, puis j'aurais pas le plaisir de les faire entrer? Non, c'est un homme soumis. Tu dis que ça va se passer comme ça? Ça va se passer comme ça, c'est super. Mais Seigneur, mets un homme devant un peuple, un homme qui va être capable de rentrer puis sortir, de les faire rentrer puis de les faire sortir, afin qu'ils ne soient pas comme des brebis errantes. Puis Dieu y a placé Josué. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la soumission. Vous savez, ces mêmes paroles-là, on les retrouve dans Jean 10. Je veux juste que vous les voyez. Ce n'était pas prévu, là. Mais je veux juste que vous les voyez. Si je vais à Jean 10 et je regarde au verset 2, 2, ça dit, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles fuiront devant lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Mais vraiment, le contexte ici parle de comment il va rentrer, puis il va sortir, puis il va nous faire rentrer, puis il va nous faire sortir, de la même façon que Dieu avait parlé à Moïse. C'est juste pour vous montrer comment que la parole est toujours la même partout. Amen. Gloire à Dieu. La soumission aussi, c'est une chose bien importante, c'est faite volontairement. Il y en a qui viennent au monde et puis qui sont déjà des enfants courageux, des personnes courageuses ou des personnes travaillantes, mais la soumission, c'est volontairement. Puis c'est quelque chose qui s'apprend. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ s'est soumis même jusqu'à la mort. Il a appris l'obéissance. Amen. Gloire à Dieu. Oui, je pense que je vais arrêter là-dessus ce soir. Amen. La soumission nous fait manger les meilleures productions du pays. Amen. Se souvenir de cela. Puis c'est ça qui amène le plus dans notre vie. Amen. On va se lever debout. Moi, j'ai toujours dit que si je crois que je suis allée devant Dieu, puis que j'ai pris une décision, puis j'arrive, puis je dis, vous allez sortir deux par deux pour aller témoigner. Et puis, supposons, j'arrive au meeting, puis je dis, j'ai dans mon cœur, vous devriez sortir deux par deux pour aller témoigner, lorsque les gens vont témoigner. Et puis là, rendu dehors, vous dites, ben là, deux par deux, ça l'a si bien l'autre fois, trois par trois. Tu sais, je veux dire, on vous tutoie pareil. Si, après ça, il vous arrive de quoi de pas correct, c'est vous autres qui êtes responsables devant Dieu. Parce que la soumission n'a pas été là. Par contre, si vous allez toutes deux par deux, puis ça ne va pas bien comme la dernière fois que vous étiez trois par trois, c'est moi qui est responsable devant Dieu. Vous autres, vous êtes libérés. Fait que c'est toujours mieux d'obéir parce que la responsabilité nous tombe toujours sur les épaules à nous. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La soumission, c'est quelque chose de grandiose. Amen. Alléluia. Ça prend plus que la foi.